Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez depuis le début. Et puis merci si vous êtes là. Enfin non, si vous nous rejoignez maintenant seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début. C'est la 400e. Je suis un peu tout à mon émotion. À suivre, Eva Rock pour son zapping du lendemain avec une sélection de documentaires. Et Bertrand Chamerois pour un écran de veille quasiment paranormal. Notre invitée, c'est la comédienne Gwendoline Hamon pour la saison 5 de la série Cassandre qui revient ce samedi sur France 3. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, Nicolas Caro va nous présenter le cinquième et dernier roman en lice pour le prix Europe 1 GMF. Et Charlotte Langrand va nous faire rêver avec une chronique spéciale barbecue. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe Vandel, ça va ?
Chronique spéciale barbecue, j'allais dire que vous étiez déjà en chemisette dans la tente des grillades.
Oui.
Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille, qu'avez-vous fait hier ?
Allez, c'est vendredi, vous le disiez, c'est la 400e, on va jouer, c'est à vous de deviner ce que j'ai fait hier. Indice sonore.
Voilà, voilà la bonne analyse, merci, voilà.
C'est au génie.
Évidemment, c'est ça,
bah,
évidemment.
Vous avez encore passé la journée devant les chaînes d'infos ?
Non, devant, je croyais que...
Devant Pascal Pro.
Mais oui, j'étais pas au bar en bas de chez moi. Je rappelle qu'il ne rouvre que le 9 juin prochain. J'ai regardé le click and collect du Balto, l'heure des pros sur CNews. Et hier, un phénomène paranormal s'est produit sur le plateau. L'un des thèmes abordés était les rodéos sauvages devant la mairie de Lyon. Mais très vite, ça a dévié sur le congé paternité de Grégory Doucet, le maire de la ville. Pascal Pro et Jérôme Béglé n'étaient pas d'accord sur le sujet.
Là, vous êtes réac.
Voilà.
Vous n'êtes pas un progressiste.
Alors là, c'est Chamombert qui dit au Roquefort, tu pues.
Oh là!
Là, ça part direct en discussion sur le fromage. Après la poire, c'est logique, vous me direz. Et attention, réaction de Pascal Pro.
Enfin, moi, vous pensez réac, non. En opposition, peut-être, bon, parfois.
Alors attendez, là, il se passe un truc. Pascal Pro vient de lâcher à l'antenne devant ses chroniqueurs. Je ne suis pas réac. Prends deux secondes pour s'arrêter sur cette phrase. Voilà, suite de la séquence, l'équipe le provoque en disant qu'il n'est pas réac, mais pas progressiste non plus. Oh, je sens qu'on va se régaler. Sortez les pop-corns.
Alors, est-ce qu'on... Pas progressiste non plus, quand même.
Non, mais on est déjà... Alors, écoutez, sur la PMA, la GPA, le mariage pour tous, tous ces sujets sociétaux, je suis à 100% pour.
On a tous bien entendu la même chose. Attendez, dire ça sur le plateau de l'heure des pros, c'est comme dire « j'aime la viande à sa famille végane ». Faut voir les tronches qui tirent autour de la table, ils sont abasourdis. Jean-Claude Dacier, il est au bord du malaise vagal. Limite, il s'attend à ce que Pascal Pro enlève son déguisement et révèle que c'était une caméra cachée de Patrick Sébastien pour le grand bluff.
Pardonnez-moi.
Ouais. Sur la GPA,
vous savez, évidemment.
Non, pas la GPA, mais pas ça. Franchement, Pascal, le mot t'a échappé.
Pascal, c'est quoi ce discours ? Dis pas que t'es gaucho non plus, merde, t'es bourré ou quoi ?
La société avance. Je sais que ça vous échappe parfois.
Eh oh, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Eh oh, bois un coup de feu, Pascal, on te perd là, on te perd ! Suite à cette phrase sur la société qui avance, ça dévie sur toute autre chose. Je rappelle que le point de départ, c'est les rodéos sauvages. Ensuite, ça a dévié sur le congé pat du maire de Lyon pour arriver à la GPA. Et là, Eugénie Bastier a regardé l'itinéraire du débat sur Waze et s'est dit... C'est un peu long, allez, c'est pas grave, je m'en fous, je prends la première sortie en quatrième.
Dans ce cas-là, légaliser le cannabis aussi, légalisons le cannabis, parce que les gens fument du cannabis.
Ceci est une alerte enlèvement, nous cherchons le rapport avec le thème du débat, n'agissez pas seul. Ah, je vous jure, c'est très étrange ce qui s'est passé, même Pascal Pro était étonné des réactions des chroniqueurs.
Et ça n'a pas de rapport, les conséquences du cannabis peuvent être destructeurs pour celui qui le prend.
Les conséquences de la GPA ne sont pas destructrices pour...
Je crois pas que... Je crois pour les enfants. Et vous voulez que je vous montre des enfants qui sont, je vous le répète, élevés par des vrais parents dans l'état où ils sont ?
Décidément, notre époque est pleine de surprises. Hier, jeudi 29 avril, Pascal Pro était en contradiction avec l'intégralité de son plateau. Il s'est exprimé en faveur de la GPA, de la PMA. Bon, de là en faire une icône LGBTQIA+, on se calme. Hein. Il parle quand même de vrais parents quand il parle des parents hétéros. Donc bon, tirons pas de conclusions trop hâtives. En tout cas, c'est très sympa à eux de nous offrir les avant-goûts de la réouverture des terrasses.
Waouh, quel final musical. Merci Bertrand. Eva, me tourne vers vous. À quoi va ressembler notre programme du week-end sur les écrans ? Quel thème avez-vous retenu cette
fois ? Vous allez tout de suite comprendre.
Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse ?
Mais qu'est-ce qu'elle a ?
13 ans.
Les ados, voilà, demain sur Canal Plus Cinéma, documentaire réjouissant sur les ados dans les films français, de Diabolomante à Divine, en passant par La Boum, évidemment, qu'on vient d'entendre, ou encore Le Péril Jeune, avec au casting Romain Duris et Vincent Elbaz en jeune premier. Il faut que vous voyez ça, c'est assez étonnant, un film de Cédric Clapiche qui témoigne.
Je pense que l'adolescence, c'est par nature un âge raté, c'est-à-dire que c'est un brouillon, on n'est pas fini, on est sur un chemin qui est, on sait que le chemin il est long et que on n'est pas arrivé. Et donc il y a plein de choses à apprendre. Il y a que des premières fois. On essaye des choses, c'est des expériences.
J'adore l'expression, c'est qu'un brouillon. Voilà, le documentaire montre à quel point en fait on est passé des films pour ados flirtant en boom, voilà, aux films pour ados décryptant la société française de façon plus sociologique. C'est passionnant. Et l'adolescence, vous savez, c'est un peu ce moment où on a dû les stars. C'était le cas hier, c'est le cas encore aujourd'hui. Ça n'a pas changé. La preuve avec un documentaire étonnant sur la plateforme Explore, qui s'appelle La dernière interview de John Lennon. Ça raconte notamment que la tournée des Beatles aux États-Unis s'est arrêtée notamment en 65 parce qu'ils ne s'entendaient plus sur scène à cause des cris des adolescentes. Il n'en pouvait plus.
Ah oui,
Lennon se compare aussi à un ado, pour une autre raison. L'histoire débute quand Yoko Ono le fout dehors.
Quand elle m'a fichu dehors, j'ai bu comme si j'avais 18 ou 19 ans. Sauf que quand on en a 37, ou je ne sais plus quel âge, on n'encaisse plus aussi bien qu'un étudiant. Je picolais et je sortais.
Il revient sur cet épisode avec une franchise étonnante et le documentaire revient, lui, sur la carrière de Lennon, donc à partir de la dernière interview qui a été accordée à un journaliste anglais. Et écoutez bien, le reporter lui demande s'il aime New York parce que la ville lui offre une forme d'anonymat. Lennon acquiesce et précise.
Je peux sortir à tout moment et aller au restaurant, c'est quand même formidable. Ou aller au cinéma. Certains me demandent un autographe ou me saluent, mais ils ne sont pas insistants.
Fin de l'interview, le journaliste repart à Londres et quand l'avion atterrit dans la capitale anglaise, il apprend la mort de Lennon, assassiné devant chez lui par un fan, Mark David Chapman. Deux très beaux documentaires à découvrir donc ce week-end. Ado, tête à clap sur Canal Plus Cinéma, c'est demain soir à 20h. Et la dernière interview de John Lennon, c'est quand vous voulez sur Explore, c'est la chaîne de documentaires qui est à retrouver sur Apple TV.
Merci beaucoup Everrock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. Bon week-end, bon barbecue à lundi.
Merci à
pour
vous
tous
aussi.
Les deux. Dans un instant, notre invitée, c'est la comédienne Gwendoline Amont. Mais d'abord, musique avec Romane.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
I saw your eyes, my rock, my pillar. At first, but soon it was the same trouble in that bubble. Burst. This ain't going nowhere. Fiction in the air. Do you even know how to care? What am I doing? This is fantasy. Don't do it.
Don't do it.
Don't do it.
This is fantasy.
Don't do it.
Don't do it.
Don't do it. You talk so slow. There's something in your heart so hard. I try. You lie and lie and lie.
Fantasy.
I see you now, stripping. And what's that? Oh no, I'm all about my fame, my win. Oh, oh. And now you're out my head, fiction in the air. Do you even know how to care? What am I doing?
This is fantasy.
This is fantasy.
Don't do it.
Don't do it.
Don't do it.
This is fantasy.
Don't do it.
Don't do it.
Don't do it.
J'adore cette découverte. Fantasy, c'était Romane sur Europe 1. Dans un instant, notre invitée, la comédienne Gwendoline Amont, va parler de la saison 5 de la série Cassandre qui revient samedi sur France 3. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Gwendoline Amont.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous en direct dans ce studio. Vous êtes comédienne, on vous a vu sur les planches, au cinéma, dans quantité aussi de téléfilms, de séries. Vous êtes surtout incontournable pour ce rôle titre de la série Cassandre sur France 2, qui revient France 3, qui revient samedi soir pour une nouvelle saison, la cinquième. Pour qui ne connaît pas la série, c'est un policier. Cassandre, c'est vous. C'est pas votre prénom, hein, c'est votre nom de famille, Florence Cassandre. C'est quel genre de femme cette Florence Cassandre?
Alors c'est ce qu'on appelle du polar familial, c'est-à-dire que ça s'adresse au plus grand nombre, de 7 à 77 ans, donc on a une, c'est pas joli de dire ça, mais une cible de public. Il faut pas que ça soit trop violent, il faut pas que ça soit trop trash, il faut pas que ça soit trop, entre guillemets, cul, etc. Mmh. Et en même temps, moi, on a tous envie que ça soit un tout petit peu réaliste, et puis pas que détendant, qu'on ait une vraie intrigue. On est en 90 minutes, on a le temps de raconter une histoire. Florence Cassandre, je suis, elle est au taquet, comme moi, là, au moment où je vous parle. Florence Cassandre, elle était nommée au 36, donc elle avait un poste administratif très haut.
Francisque des Orfèvres, merci.
Et puis elle se rend compte, ça c'est au tout début de l'épisode pilote, qu'elle n'a pas été mère, elle est divorcée, qu'elle s'occupe mal de son gamin qui commence à partir un peu en sucette. Donc elle fait une croix sur sa carrière et elle décide de s'installer à Annecy en disant je vais arriver dans un petit commissariat, bon ça va être pépère. Et puis finalement ça va se passer autrement. Elle n'est pas attendue, pas aimée et puis de fil en aiguille, elle s'entend très bien avec cette nouvelle équipe et elle va résoudre des meurtres.
Alors spécialement pour les gens d'Annecy qui pensent que tout est pépère là-bas, on va entendre la bande-annonce.
Un meurtre sans corps, c'est mon premier, madame la commissaire.
Cassandre est de retour.
Ça change rien, hein. On continue à se parler, à bosser ensemble. Fin...
Vous avez quelque chose à me dire?
Rien n'a changé.
Ça va, commissaire, il y a un problème ou...
Il y a un problème blond qui a 20 ans et qui a un blouson bleu. Ça vous dit quelque chose?
Mais tout est différent.
Bah, il se pourrait bien que ce soit ma fille.
Nouvelle enquête, nouvelle surprise.
Donc le premier épisode ce soir, des images de drones somptueux, une propriété somptueuse, on découvre un jardin, et dans le jardin, un corps sans vie. Mais quand vous, la flic, débarquez sur la scène du crime, le corps a disparu, la victime s'avère être le gendre et associé. Est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? Et s'il est mort, qui a caché le corps et pourquoi? L'enquête, c'est ça, mais ça on ne peut pas trop raconter, on ne peut
non.
pas en dire plus.
Mais il y a une énigme dans chaque Cassandre à résoudre. Donc ça c'est le polar, et puis il y a la partie comédie où de plus en plus les autres acteurs et moi, enfin les autres personnages sont développés et puis on rentre dans leur vie privée, et leurs petites histoires, leurs petites névroses.
Plus que des petites histoires, il faut parler de cette relation de Cassandre avec son collègue, le capitaine Pascal Roche, interprété par
Alexandre Varga.
Alors, ils avaient une relation particulière tous les deux. Ils étaient un peu en mode dragouille, sans aller plus loin. Là, à un moment donné, dans l'épisode, vous avez une embrouille avec lui. À cause d'une visite surprise à votre domicile la veille, il y a une très jolie fille qui se fait passer plus ou moins pour une étudiante. Vous vous rendez compte qu'elle vous ment, qu'elle essaie de vous baratiner. Elle voudrait, soi-disant, vous rencontrer pour vous poser des questions. Vous la renvoyez chez elle. Et le lendemain, avec Varga, il y a ce dialogue entre vous deux.
Ça va, commissaire? Il y a un problème ou...
Ah oui, il y a un problème, capitaine. Il y a un problème blond qui a 20 ans avec des petits seins et un blouson bleu. Ça vous dit quelque chose? Alors si vous voulez vraiment qu'on reste dans le professionnel, démerdez-vous pour que vos histoires de cul ne viennent pas déborder sur mon territoire, c'est clair?
De quelle histoire de cul vous parlez, là?
Oh, de quelle histoire de cul vous parlez? Elle s'est pointée chez moi à 20h hier soir. Elle est bien gonflée. Alors je sais pas ce que vous lui avez fait, et puis je m'en tape, hein, en vrai. Mais alors, elle me flique et elle vous flique. Bon, en voilà.
Attends. De quoi vous parlez, là?
Une grande blonde. Ça vous dit rien?
Non?
Non, vraiment, sérieusement, ça vous dit rien?
Bah non.
Et même pas une toute petite?
Non.
Non.
Ah, une blonde, non, ça me dit rien, non.
Bon. Bah, je me suis encore couverte de ridicule, qu'est-ce que vous voulez?
Non, mais par contre, qu'il y ait une fille qui débarque chez vous en pleine nuit, ça m'inquiète, par contre.
Oui. Eh ben moi, ça m'inquiète aussi. Et ma préférence serait pour un beau mec.
Alors, vous attendez un beau mec, il ne s'est rien passé entre vous avec Varga, mais les fans aimeraient bien qu'il se passe quelque chose.
Oui, probablement, mais vous savez, vous vous souvenez de cette série Éclair de lune avec
Moonlighting.
Exactement.
C'était formidable.
Et Bruce Willis, c'est un peu ce principe-là, c'est-à-dire qu'ils sont tu me fuis, je te suis. Ils courent l'un derrière l'autre sans jamais y arriver. Après, je ne sais pas si c'est les scénaristes qui décideront, mais il y a effectivement une vraie attraction entre ces deux personnages. Lui, il est probablement véritablement amoureux. Elle, je ne sais pas si elle est amoureuse, en tout cas, elle est très très attirée, parce qu'il est plus jeune, parce qu'il est sexy, parce que c'est la vie. Et en même temps, je crois qu'elle a très très peur. Elle a plein de problèmes psychologiques quand même, la mère Cassandre. Hein.
Alors cette année, je vais annoncer les guests. Il y aura Claire Borotra, Virginie Lemoine, Elena Noguera. Au casting, il y a Alexandre Varga, on vient de le dire, Dominique Pinon ou encore Soren Prévost.
Jessie Hugolin, Émilie Gavoicane.
Je veux dire un mot d'Émilie Gavoicane qui incarnait depuis 4 saisons le major Sidonie Monferrat. Elle ne fait plus partie de la série parce qu'elle est partie sur une autre série, la nouvelle version des petits meurtres d'Agatha Christie qui se déroule dans les années 70. Et vous dites que ça a été très très dur pour vous.
Ah, ça a été très dur. C'est Émilie et moi, bon, bah, on s'est rencontrés sur Cassandre il y a 5 ans. C'est une histoire d'amour entre elle et moi, une histoire d'amitié, mais une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour. On a eu un flash l'une pour l'autre, et pourtant on est radicalement différentes. Et on a... Quand elle est partie, j'ai pleuré pendant une heure et demie, mais j'en pleure encore, et elle aussi. Je ne peux pas vous dire, c'est une rencontre. On a un peu grandi, enfin nos personnages ont grandi ensemble pendant ces 5 années, on s'est construites ensemble. On a eu plein de problèmes aussi de vie de tous les jours et de vie privée, et on en a beaucoup parlé. Et je suis très très heureuse et très fière d'elle parce que c'est une grande actrice. C'est une actrice absolument sublime, Émilie. Et c'est une grande femme. Mais j'étais triste qu'elle me quitte.
Mais vous avez vraiment pleuré une heure et demie sur le plateau, sur la dernière scène.
C'est-à-dire qu'on a fait la dernière séquence.
Ouais.
Et la dernière séquence, elle a commencé à couper. Les larmes sont montées. Elle aussi, on ne s'est plus arrêté.
Parfois, vous savez quoi ? Il y a des larmes. Quand arrive Hélène Manarino, c'est tout de suite. Gwendoline Hamon avec nous, Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la comédienne Gwendoline Hamon qui incarne Cassandre, c'est la 5e saison qui démarre samedi sur la 3. Au fil de chaque saison, on apprend des choses sur vous, comme au fil de chaque intervention d'Hélène Manarino. Bonjour.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
On apprend des choses sur les invités.
J'espère, c'est le but du portrait. Bonjour Gwendoline
Hamon. C'est inattendu, c'est à vous Hélène.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Moumou la purée, ses cotines à côté de toi, c'est de l'eau.
La tête qu'elle a fait, je dis, elle a bondi de 10 cm sur sa chaise quand elle a entendu 4 syllabes.
Ou encore Gaga, ça c'est le surnom que vous donne votre nièce. Au oui. collège Ulst à Paris, votre professeur de français Daniel Pénac oui. aimait vous faire regarder une affiche. Et il vous demandait de raconter une histoire autour de ça. Alors ce matin, je vous propose de regarder l'affiche de votre vie et de raconter votre histoire. Évidemment, nous commençons par votre enfance avec ce poster des frères Jacques dans votre chambre. Votre doudou, ce n'était pas une peluche, mais tout simplement vos doigts. Oui. Vous aimiez sucer votre majeur et votre annulaire, puis frotter votre main contre le mur pour sentir l'odeur du mur. Voilà.
Ça soigne bien maintenant. Hein.
Fan de Candy, de La Petite Maison dans la Prairie, vous avez tout de suite voulu être comédienne, donc les déguisements, les jeux de rôle, ce n'était pas du tout effrayant, bien au contraire. D'ailleurs, dès l'âge de 7 ans, grâce à vos cours de piano, vous chantiez dans la salle des fêtes de Montfort-l'Amaury. À la maison, en voiture, vous vous laissiez emporter par les chansons de Julien Clerc, Michel Sardou, Véronique Sanson. Le graphisme de votre enfance, Gwendoline Hamon, a très vite pris la forme du Sénégal. Vous y avez vécu très jeune. Vous aimiez manger des mangues sur la plage, mais aussi des maïs grillés et du lait caillé. Vous aimiez afficher votre joie de vivre, qui passait par cette musique des Pink Floyd que vous écoutiez sur la plage avec vos parents et leurs amis. Ouais. Alors, Gwendoline Hamon, vous étiez déjà une grande créatrice. Petite, vous aviez des draps Sesame Street ou Mickey et Dingo. Et vous aimiez découper les personnages dans les draps.
Ah non, c'est génial, ça, c'est Sentinée.
C'est
la suite de Sentinée.
C'est vrai, j'étais punie tout le temps à cause de ça.
Il y a des personnes aussi à mettre en haut de l'affiche. Votre grand-mère paternelle, pharmacienne, vous adoriez jouer à la marchande, taper sur la caisse. Vous vouliez aussi toutes les barres aux Vomaltines.
Oui.
Et votre grand-mère maternelle, metteuse en scène, qui vous a transmis sa passion pour le théâtre, elle vous a beaucoup aidée. Alors, Gwendoline Hamon, analysons maintenant une affiche remplie d'anecdotes. Vous allez voir votre adolescence et toutes ces vacances au Cap Ferré avec vos grands-parents. L'odeur des fraises, chez le marchand de journaux, la pêche au crabe, la vie paisible, la liberté, le bol d'air frais, votre amour pour les animaux et cette chienne que vous avez récupérée sous votre voiture, vous l'avez appelée Françoise, comme le nom de votre belle-mère de l'époque.
Elle a dû être contente.
Bavarde. Souvent, le papa de votre meilleure copine vous appeliez Gasoline en vous disant systématiquement « on fait un écran pub pour que vous puissiez reprendre votre souffle et puis que vous puissiez vous taire ».
C'était Yann Delécoté, directeur de l'Express, ce papa-là.
Wow.
Et puis, évidemment, on va continuer par illustrer cette folle période par quelques bêtises. À l'âge de 17 ans, vous viviez à Nice. Votre papa vous annonce qu'il arrête de fumer pour vous montrer l'exemple. Et à 8h du matin, à l'arrêt de bus, il vous voit en train d'allumer une cigarette. Il était en voiture et il vous a fait un signe de la main, il ne s'est pas arrêté. Vous étiez stressé toute la journée. Et puis vos soirées à faire le mur, à jouant les pins. Vous dormiez parfois sur la plage pour attendre le premier train. Mais une nuit, à cause du vent, votre papa a entendu la porte-fenêtre de votre chambre claquer. Vous avez donc été démasqué, Gwendoline.
Il a fait le mur.
Et puis, il y a eu les soirées à Paris, chez Castel, avec les grandes sœurs de vos amis. Continuons de contempler vos souvenirs. Votre affiche montre aussi des touches d'amour, notamment votre amour du lycée, Eric, cheveux noirs, perfecto.
Attends. Il était comme ça, Eric ?
Ah ben c'était, il existe toujours. Il s'appelle Eric Captan, il est fleuriste et je l'adore. C'est devenu mon meilleur copain.
Oui, c'est
et
juif marocain, copain.
Donc cheveux noirs, David et Jonathan, perfecto. Ma grand-mère a eu le flip de sa vie.
Ah ben oui, parce que votre grand-mère, elle l'appelait le cafard.
Mais elle m'a dit, il y a quelqu'un qui t'attend en bas, on dirait un cafard. Elle a eu super peur.
Et puis il y a eu Marc, le fils de Claude François. Un jour, vous êtes allé dormir.
Mais qui vous a raconté tout ça ?
Chez Claude, avant que l'appartement ne soit vendu, il y avait cette légende. Un fantôme existait dans cet appartement. Vous n'aimiez pas trop ça. Alors que Marc décide de mettre un vinyle d'un chanteur américain. Il le met, et là, vous entendez la voix de Claude François chanter.
Mais c'est vrai, cette histoire, mais qui vous a raconté?
Et vous êtes parti en courant.
Elle sait tout.
Non, mais c'est ma sœur, c'est pas possible.
Vous mettez un disque d'un chanteur américain, et c'est Claude François qui chante.
Je suis restée 3 ans avec l'un des fils de Claude François, de mes 17 à 20 ans, et il a vendu l'appartement boulevard d'Exelmans de son père. On est allés ensemble parce que le lendemain, il donnait l'appart. Et il a mis un disque, je sais même plus de qui, je crois que c'était Stevie Wonder, je sais pas quoi, en tout cas. Et c'est son père qui s'est mis à chanter un flip monstrueux.
Vous êtes parti, mais il n'y avait pas eu que ça, Gwendoline.
Non, il n'y a pas eu que ça. Et on est parti, du coup.
À chaque fois, quand vous brossez les dents, vous avez peur qu'un fantôme arrive derrière vous.
Non,
donc
ça,
vous
mais c'est plus le cas maintenant.
Maintenant, quand vous étiez ado.
Mais quand j'étais jeune, ouais.
Et alors, surtout.
C'est ma grand-mère qui parlait de fantômes tout le temps, elle me faisait flipper, alors voilà.
Alors, il y a surtout des souvenirs de grands fous rires, de vie absolument inoubliables, notamment les révisions de votre bac en maillot de bain sur le balcon, en dansant et chantant sur cette chanson.
Ça va me faire pleurer. Roberta Flack.
Elle est belle cette chanson, hein.
Ah oui.
Ça sent
Roberta Flack, un bac que vous avez raté car vous n'êtes pas allé à une épreuve. Vous avez, à cause d'une grosse fête que vous avez fait tout le week-end.
Ouais, alors, avec Mathilde Lécotec, je cite parce qu'à mon avis, c'est elle vos sources.
Je ne cite pas mes sources. Gwendoline Hamon, passons à l'affiche de votre vie d'aujourd'hui. Tout est carré, organisé. Vous avez peur du conflit. Vous parlez à tous les commerçants pendant 2 heures. Et il y a surtout le héros au-dessus de tout, votre fils Gabriel, à qui vous dites souvent, allez, arrête Gabriel. Et puis la famille, et vous retrouvez tous ensemble dans votre maison du bonheur que vous appelez la fatigue. Mangez la bavette à l'aïoli de votre père, votre sœur avec qui vous aimez rire. Alors la famille, vos amis, ça n'a pas de prix. Une amie fidèle, généreuse, vous avez la même bande depuis votre plus jeune âge. Vous n'avez jamais oublié l'essentiel, une affiche de vie authentique et remplie de souvenirs qui donne envie de l'accrocher, Gwendoline Hamon, et de la contempler.
Voilà, vous ne connaîtrez
donc,
jamais les
je me suis embrassée.
Hein, très rapide réaction, ça vous a touché?
Oui, ça me touche parce que ça, c'est des choses très très privées.
Oui.
Je n'aurais jamais imaginé qu'elles iraient raconter tout ça.
Et j'ai coupé encore.
Et vous avez coupé.
Elle a coupé. Vous savez quoi, je vais reprendre le texte d'Hélène Manarino que j'ai là. On fait un écran de pub pour que vous puissiez reprendre votre souffle. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Gwendoline Hamon qui incarne Cassandre, la saison 5 qui démarre ce samedi sur France 3. Les audiences, ça marche bien, vous les connaissez ou pas?
Je les connais, je crois qu'on fait entre 5 et 5,5, plus les replays.
Exactement. Il y a 4 inédits cette saison, comme la saison précédente qui avait bien marché. De toute façon, il y a quelque chose qui est très très simple en télévision, c'est quand vous faites une nouvelle saison, c'est que la précédente a bien marché.
Oui.
Parce qu'il est très rare qu'on refasse une saison d'un truc qui s'est planté. Vous l'avez dit, il y a toujours de l'humour dans la série. Dans l'épisode de ce soir, vous avez une séquence avec le procureur, c'est Soren Prévost.
Soren Prévost, il est formidable.
Alors là, je ne vais pas spoiler. Vous êtes sur le point de découvrir la clé de l'énigme. Je ne dis pas comment,
ah non,
ni pourquoi.
Pas, oui.
Mais quand même, on va entendre cet extrait avec le proc.
J'ai peut-être une idée.
Ah, enfin, pas moi, ma femme.
Elle dirige le service culturel de la mairie. C'est une passionnée d'histoire. Et d'après elle, il y aurait une cache dans la propriété de Haudemont. Les résistants s'y seraient planqués pendant la guerre.
Ah, mais si le corps est encore dans la propriété, là, c'est génial.
N'est-ce pas? Alors, ma chère tante va fouiller dans les archives de la municipalité, parce que la propriété Haudemont a servi de mairie peu après 1789. Il doit bien y avoir un plan du bâtiment de l'époque.
Si votre femme trouve, regardez-moi bien, hein, je l'embauche.
À vos risques et périls.
Bon allez, je vais en parler à ma femme.
Vous imitez qui, là?
Colombo.
Ça, c'est Colombo?
Oui.
Pardon.
C'est vexant, hein?
Si, c'est vexant.
Vous mais êtes... faut pas tout dévoiler, enfin.
Mais non, mais on sait pas ce qui va se passer. On sait rien, on sait pas à quel moment, on sait pas qui. Vous êtes bonne en imitation à ce qui paraît.
Non, je sais pas. Je suis... En plus, j'adore les Belges et finalement, je me dis que j'ai passé ma vie à faire l'accent belge probablement mal et à les vexer alors que j'adore ces gens.
Ça ferait comment? C'est vrai.
Mais je sais pas. Mais
un
je...
Belge qui ferait un barbecue.
Non, c'est
ça
pas
ferait
un Belge, ça doit être un Bruxellois. Mais je sais pas. Un barbecue? Oui. Pourquoi vous parlez de barbecue?
Parce qu'on va parler de barbecue avec Charlotte Langrand. Bonjour Charlotte.
Bonjour Philippe Mandel. Bonjour Guadeloupe.
Rien n'est jamais gratuit dans cette émission et justement, il est temps de penser à sortir le barbecue du garage. Mais les beaux jours arrivent, sans parler du éventuel déconfinement.
C'est vrai, ça sent un peu l'ouverture de la saison des barbecues, hein, comme ouais. on dit. Donc, d'autant que 3 Français sur 4 posséderaient un barbecue ou une plancha. Donc, il faut sérieusement se préparer à nettoyer la grille pour les prochains week-ends. Hein. Alors, je sais à quel point on aime regarder cuire sa côte de bœuf ou ses chipots, tranquille, une bière à la main. Alors, je vais faire simple, je vais juste vous rappeler qu'on ne pique pas les saucisses avec la pointe de son couteau.
On fait quoi alors ?
Sinon, elles perdent leur eau. Leur graisse, elle se dessèche, elle brûle, c'est la catastrophe. Donc on les cuit juste à feu moyen pour éviter qu'elles n'éclatent.
Mais si on le fait pas, elles s'éclatent toutes seules. Elles font
mais non, à feu
moyen.
Moi
je les pique
si
toutes, hein, parce que ça enlève un peu la graisse. C'est toujours ça de moins dans les fesses.
Écoutez, on quitte ce studio.
Tentez-le une fois, vous me direz les nouvelles.
On va tenter, alors je vais le tenter.
Tentez-le. Alors une fois cette précision hautement importante faite, moi je voulais plutôt vous parler de ce qu'il y a autour du barbecue, ces petits pots de sauce qui sont presque aussi importants que la grillade elle-même. Hein. C'est quand même dommage de gâcher une bonne viande de votre boucher avec un ketchup industriel ou une moutarde qui vient de l'autre bout du monde, souvent de Chine, il faut le savoir. Donc autant les faire soi-même.
Alors, je suis absolument d'accord avec vous parce que je les trouve toujours immondes, sauf que je ne sais pas quoi faire.
Alors,
quoi
faire moi, je vous dirai après.
D'accord.
Bien
alors,
sûr. Bah, comment on
fait ces condiments mis en c'est facile.
Alors,
c'est...
oui, il faut juste les préparer un petit peu à l'avance et puis décider lesquelles, parce qu'elles sont quand même très nombreuses. Et puis nous, on a surtout des références de sauces américaines, hein, évidemment, puisque la cuisson
puisqu'on
du barbecue.
Est con et qu'on suit les Américains.
La cuisson du barbecue, effectivement, elle s'est répandue en même temps que le mode de vie américain dans les années 50. Donc, on parle ketchup, moutarde, la fameuse sauce barbecue qui est en fait un ketchup plus relevé, hein, avec des ingrédients un peu plus piquants, comme la sauce Worcestershire ou des piments ou des oignons. Mais pour changer un petit peu, descendons, je vous propose de descendre un petit peu vers l'Amérique du Sud, en Argentine, l'autre pays de la braise, où on trempe sa côte de bœuf dans une sauce chimichurri. Alors dedans, il y a quelques tomates concassées, mais sinon c'est très vert. Il y a du persil, de la coriandre hachée, de l'oignon, de l'origan séché, le jus d'un citron, de l'huile de tournesol, un peu de sel, un peu de poivre, une pincée de sucre de canne, le tour est joué. Ça change vraiment du ketchup
mais
et c'est très bon.
Moi, je suis comme Gwendoline, j'ai envie de faire un assado avec ça.
Ça donne envie. Hein.
Mais aussi, vous dites, on peut piquer des inspirations aux grands chefs qui sont, elles, très gastronomiques.
Ah bah oui, on est en chef. Ah, on est en France. Alors, par exemple, à Paris, vous avez le chef Antoine Abonnet, j'ai vu qu'il faisait un ketchup de poire, Alexandre Marchand, une moutarde avec un petit peu de sirop d'érable. Et puis chez Gram, j'ai vu passer une mayo de harissa, pour ceux qui aiment les choses un peu relevées. La chef Georgiana View, elle est installée à Marseille, elle donne même une sorte de recette de ketchup du Bénin, qui vient du Bénin, parce que elle est disponible sur son nouveau livre Le goût de Cotonou aux éditions Ducasse. C'est une sauce tomate très parfumée avec des crevettes séchées et du gingembre. Et si vous voulez une autre sauce revisitée, je vous propose un ketchup de betterave du chef Pablo Jacob de chez 12 à Paris. Alors vous prenez 200 grammes de betterave dans du papier alu, vous les oubliez au barbecue pendant presque une heure. Pendant ce temps-là, vous faites à la poêle fondre un oignon, un peu de gingembre, de l'ail. On ajoute des épices, une pincée de sel, de poivre, de paprika, de coriandre en grains. Ouais. On rajoute des betteraves, les fameuses cuites en dés, coupées en dés. Le jus d'un citron, du vinaigre balsamique. On laisse réduire et on mixe.
Ouais, c'est pas si dur. Oui, c'est pas si dur, sauf que les betteraves, elles sont restées une heure si on a la flemme ou si on n'a pas le temps.
Ah, bah si on n'a pas le temps, d'accord. Allez, Philippe, je vous autorise quand même à acheter des sauces toutes faites. Mais alors, si vous voulez, dans ce cas-là, privilégiez les petites marques qui réhabilitent les condiments faits en France. Par exemple, chez Maison Martin, vous avez une hot sauce, une sauce piquante faite avec des piments cultivés en Bretagne, de façon raisonnée. Et puis chez les Trois Chouettes, vous avez un ketchup de carotte, gingembre ou betterave, cumin. Donc franchement, aucune excuse pour ne pas le faire. Maintenant donc, à table, vous pourrez débattre de la meilleure cuisson des saucisses ou de la côte de bœuf et des meilleurs accords entre les grillades et vos sauces.
Mais moi, je ne sais pas vous, Gwendoline, mais moi j'ai faim.
Ah non, moi ça me donne très très faim. Et moi, je fais un aioli très très aillé. une mayonnaise faite maison avec beaucoup d'ail, c'est un truc de la famille, et je le mange avec de la bavette cuite au barbecue.
Ben voilà.
Au programme de la table des bons vivants, demain.
Alors,
Charlotte.
Demain, à partir de 11h, on va s'interroger sur le vrai coût du goût en termes de prix, d'impact sur l'environnement et sur la rémunération des producteurs. Et puis, on discutera de la qualité des céréales avec notre invitée Marina Carrère-Dancos.
Merci beaucoup, Charlotte Langrand.
Merci.
Vous restez avec nous, Gwendoline Amand. On va parler de littérature, on va parler le barbecue, on arrête, sinon on a trop la dalle. D'abord, musique avec Julien Doré, c'est Kiki.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
De mon cœur tu tombes. Dis-moi si tu sais. Te tenir à ton ombre. Te tenir à leurs idées. C'est la peur qui gronde. Dis-moi si c'est vrai. Qu'on a cassé le monde. Qu'on a le dernier ticket. Mais toi t'auras ton style. Comme Kylian Mbappé. Et tu seras libre. Si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre. Ni de gens aimés. Ils étaient trop fragiles. Ils l'ont dit à la télé. De mon cœur tu plonges. Dis-moi si tu sais. Compter les secondes. Sans tomber dans l'abîme. C'est la peur qui hurle. Qu'il te faut susurrer. Pour te faire entendre. Sans trop te faire remarquer. Mais toi t'auras ton style. Comme Kylian Mbappé. Et tu seras libre. Si t'es pas fatigué. Tu feras pas de tigre. Ni de gens s'aimer. Ils étaient trop fragiles. Ils l'ont dit à la télé. Qu'il arrive, toi au moins tu sais, tout ça tient qu'à un fil, qu'on a mal déroulé. Tu sais, c'est la honte qui me sert de papier. J'ai dessiné ta tombe avant même de te bercer. Et si ça résonne, et si demain te plaît. Faudra que tu pardonnes. On était fatigué. Et si ça résonne. Et si demain te plaît. Faudra que tu pardonnes. On était fatigué.
C'était Julien Doré sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable avec Nicolas Carreau. Il va nous faire découvrir l'ultime roman, le cinquième de sa sélection pour le prix Europe 1 GMF. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de la comédienne Gwendoline Amand, amoureuse de l'écrit et des bibliothèques. Elle a de qui tenir, vous le verrez. Nicolas Carreau, bonjour.
Bonjour.
On parle de littérature avec vous et cette semaine, vous nous avez présenté chaque jour l'un des cinq romans sélectionnés pour le prix Europe 1 GMF. J'ai dit vous nous avez, il y a une phrase au présent, car voici le cinquième, l'ultime. Rien à voir avec les précédents, le sujet est grave.
Oui, c'est le roman de Jean-Michel Rioux qui s'appelle « Les mouches bleues » chez Plon. C'est un livre qui part d'un sondage d'avril 2019, un sondage terrifiant, accrochez-vous, c'est en exergue du livre. 41% de la population américaine ignore ce qu'il s'est produit à Auschwitz et chez les 18-34 ans, ça monte à 66%.
C'est-à-dire les deux tiers.
Non, non, mais c'est dramatique aux États-Unis.
C'est pas un essai, c'est un roman, Nicolas.
Oui, oui, ça c'était l'exergue, juste avant la première page. C'est un constat de départ. Terrifiant, certes.
D'un culture terrible.
Parce que c'est un livre précisément sur la mémoire, vous allez voir. Le roman commence donc dans un train, des hommes serrés dans une puanteur infecte qui n'ont aucune idée d'où ils vont.
Mais nous, on comprend qu'il part pour les camps.
Bien entendu. Les mouches bleues du titre, ce sont les nazis, les SS, qui aiment le goût de la mort comme les insectes charognards. Le roman est inspiré, en fait, de l'histoire vraie d'Alexander Kulisevic, déporté à 21 ans au camp de Sachsenhausen. Et dans cet enfer, il trouve le moyen de faire de la musique et d'écouter celle des autres. Il survivra grâce, justement, à la musique et à ses co-détenus. Il était journaliste et musicien, Alexander Kulisevic. Il a été arrêté après avoir publié un pamphlet contre Hitler. Dans le camp, il résiste en écrivant des chansons sur ses conditions de vie et les interprète parfois. Les autres chantent aussi, confient leurs chansons à Alexander. Hypermnésique, il est chargé de les retenir toutes. Ce qu'il fera, il écrira et jouera sur scène après tout ça les musiques des camps pour, justement, ne rien oublier. Un roman sur la solidarité, l'émergence aussi de la beauté dans la pire des situations et sur la mémoire. Donc.
C'est incroyable parce que je suis en train de lire sur ces sujets-là justement.
Vous lisez
deux livres. Je lis un roman de, je sais plus, j'ai honte de dire ça, je sais plus si c'est Patrick Sand ou Philippe Sand. Je sais que ça s'appelle Retour à Lemberg et j'en suis au premier quart, mais c'est un gros
Michel.
Bouquin. Sur ce monsieur qui fait des recherches sur son grand-père, qu'il a un petit peu connu mais qui n'a jamais parlé de rien et qui part en Pologne et en Autriche. Enfin, c'est incroyable, c'est un polar incroyable.
Et le second
et puis
livre,
le second livre, c'est un livre d'une sociologue historienne qui s'appelle Carole Mann, qui s'appelle, je crois, nous partons pour une destination inconnue. En fait, ce sont les femmes qui étaient à Drancy qui envoyaient des lettres à leurs parents, à leurs amis, peut sauver les enfants, je ne sais pas où je vais, je crois qu'on part pour une destination inconnue. Certaines sentaient que ça sentait très très mauvais et d'autres étaient un peu paumées. Et c'est terrible parce que elle parle beaucoup des femmes juives du 18e siècle à la Shoah et de la condition de la femme et notamment de ces femmes-là qui, pour certaines, ont vachement d'espoir et pour d'autres, ont compris. Il y a des femmes qui ont compris tout de suite, qui disent « je sais que je ne reviendrai pas, je t'en supplie, occupe-toi des enfants, de ceux qui ont pu rester ». Je suis dans ces sujets-là, pourtant je ne suis pas juive, mais ça m'intéresse beaucoup. Je suis terrifiée qu'après la Shoah, après les Tutsis et maintenant les Ouïghours, et que même si ça peut paraître pour certains démagos et qui ont l'impression qu'on rabâche ces sujets, moi je les rabâche parce que je ne veux pas que ça... Je ne comprends pas comment le monde ne change pas un peu avec toutes ces histoires qui recommencent, quoi. L'histoire ne sert à rien.
Et ce chiffre de 70%...
Philippe Sand, Retour à Lemberg.
Philippe Sand, c'est ça.
Et ce chiffre de 66% de jeunes Américains qui ignorent l'existence de la Shoah et
mais
du
camp d'Auschwitz. Mais ils ne savent pas où est l'Europe, pour certains.
Je pense que le sondage en France ou en Europe ne serait pas si terrible non plus.
Je reviens à ce livre signé Jean-Michel Rioux que vous nous présentez, Nicolas Caro. Les mouches bleues chez Plomb et le nom du lauréat du prix européen GMF sera dévoilé le 20 mai. Merci Nicolas Caro. Suite et fin de Culture Média, toujours en compagnie de Gwendoline Hamon. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie de Gwendoline Hamon à l'affiche de Cassandre, la saison 4 qui revient à partir de demain samedi sur France 3. Vous avez entendu évidemment en tant que comédienne, en tant que citoyenne, les annonces du président Macron, celles qui nous concernent ici directement dans Culture Média. À partir du 19 mai, les musées, les monuments, les cinémas, les théâtres et les salles de spectacle avec un public assis pourront reprendre leur activité avec un maximum de 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Et puis le 30 juin, donc un peu plus tard, OK pour les événements avec plus de 1000 personnes, mais avec un pass sanitaire sur présentation d'un test négatif ou d'un certificat d'immunité. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une bonne nouvelle. Et la question que je vous poserai ensuite, c'est quelle est la première chose que vous allez faire au point de vue culturel, au point de vue spectacle? Qu'est-ce qui vous manque le plus?
Mais bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Hein. Beaucoup de métiers souffrent, et notamment la culture. Et c'est terrible pour les gens qui bossent au théâtre, tous ces techniciens, pour tout le monde, pour les créateurs, pour les acteurs, pour le cinéma, c'est terrible. Et puis surtout, moi je ne comprends pas comment on peut dire que la culture n'est pas essentielle. Dans des moments où les gens sont enfermés, elle est suressentielle.
Ils sont revenus là-dessus. Quand ils avaient fermé les librairies, ils sont revenus, les librairies étaient ouvertes.
Je ne
suis
pas
en train de faire l'avocat du gouvernement,
je ne suis pas en train de les accuser non plus. Ouais. C'est une situation très compliquée dans tous les pays et c'est la galère, donc je ne les accuse pas. Mais franchement, au théâtre et au cinéma, on a un masque, on regarde un écran ou une scène en face, on ne se parle pas, donc c'est pas l'endroit où forcément on y allait. D'ailleurs, il y a eu un moment où on pouvait aller au théâtre.
On s'en souvient.
Pendant la pandémie, bref, donc c'est une très très bonne nouvelle et pour les restaurateurs aussi, bien évidemment.
La première chose que vous allez faire.
La première chose.
Le théâtre, le cinéma.
Écoutez, là, je pars en tournage dans 3 jours pendant 2 mois, donc bon. Ça va être un peu compliqué. Mais dès que je pourrai, probablement.
Qu'est-ce qui vous
manque le cinéma,
plus? Je vais
théâtre.
Dire la chose différemment.
Non,
qu'est-ce
les
qui
deux.
Vous manque le plus?
Les deux me manquent. J'ai vu que Edouard Baird allait faire un spectacle. J'ai très envie d'aller le voir. J'ai très envie de reprendre ma vie culturelle et puis, oui, cette liberté. Donc j'irai et au cinéma, et au théâtre, et au concert.
Qu'est-ce que vous allez tourner?
Je tourne la saison 6 de Cassandre, et puis, si tout se passe bien avec les dates, le prochain film de Christian Carion.
D'accord. Le Festival d'Avignon, je le précise, aura bien lieu du 5 au 25 juillet. Il y a encore des histoires de jauge un peu complexes à comprendre. Comment vous avez vécu le confinement? Si j'ai bien compris, vous étiez à la campagne.
Le premier confinement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais partie en week-end avec mon fils et deux amis et on y restait. On est resté deux mois en week-end. C'est ce qui n'était pas prévu. Je devais partir juste un week-end et comme mes tournages se sont arrêtés, je suis restée à la campagne. Et puis, je l'ai plutôt bien vécu au début puisqu'après, j'ai beaucoup travaillé. Donc, même en portant un masque, que j'étais en action et en liberté. Là, c'était plus compliqué dernièrement. Surtout mon fils, pour mon fils qui est adolescent. C'est très compliqué pour les jeunes et pour les étudiants.
Bien sûr. Et comment, où en est l'écriture de votre seule en scène que vous avez commencé il y a presque 3 ans?
Je veux dire,
on vous a déjà posé cette question il y a un an, écoutez, donc on disait que vous avez démarré il y a 2 ans.
Eh bien écoutez, alors c'est en train de devenir peut-être un 2 en scène et plus un seul en scène. Et il est terminé. Maintenant, j'ai besoin de peaufiner. Il y a un début et une fin, mais j'ai besoin de peaufiner. Mais vous savez, comme je tourne, j'ai tellement de choses à faire que j'arrive pas à me concentrer sur... je suis multitâche sur plein de choses, mais pas sur l'écriture.
Seul en scène, mais deux en scène avec qui?
Écoutez, c'est une idée. En fait, je coécris avec mon père et c'est mon père... Si, je suis très proche de mon papa, qui est un jeune papa. Et puis même si c'était un vieux papa, je serais très proche de lui quand même. Et je lui ai demandé l'année dernière si ça l'amusait d'écrire avec moi. J'avais déjà commencé toute seule. Et il m'a donné cette idée, on sera peut-être deux en scène. Mais je vous en dis pas plus.
Non, pas avec lui. Il va pas monter sur scène avec vous.
Non, quelle écriture? C'est pas lui qui va monter sur scène avec moi.
C'est la suite de Guitry, mais mon père avait tort.
C'est ça. Donc voilà, ça c'est vraiment en train de se faire. C'est vrai que c'était un peu long, mais c'est en train de se
faire. Et puisque vous parlez de la famille, votre fils, il veut faire comédien ou pas?
Non, pas du tout. Ah, il a eu des velléités quand il était plus jeune parce qu'il est assez bon, ce crétin.
Ouais.
Mais non, pour l'instant, il a plutôt envie de... Non mais assez bon pour jouer la comédie, c'est ça qui est terrible.
J'ai compris. Non, mais je souris parce qu'il se fait traiter de crétin par sa maman à la radio.
Oui, mais parce que ça c'est gentil, on s'adore.
On a bien compris.
Non, il a plutôt envie de faire du commerce. Mais enfin, vous savez, à 16 ans et demi, ça peut muter encore les envies. Hein,
oui, donc... mais que ses parents, je vais le dire une fois comme ça c'est fait, son papa c'est Frédéric Diffenthal qui est comédien également, donc il n'a pas envie de marcher dans les traces de ses parents.
Non, bon, je sais pas, pour l'instant ça l'intéresse pas. Et puis c'est très bien comme ça, il fera ce qu'il veut.
Et l'atavisme familial, ça a joué pour vous? Je rappelle que vous êtes la petite fille d'un monument du théâtre français, même du théâtre mondial, Jean Anouilh. Ça a joué pour vous dans le choix de votre profession?
Probablement, puisque je grandissais dans cet environnement-là. Oui, sûrement. Et puis vous savez, comme le disait la jeune femme tout à l'heure, j'ai raté mon bac, j'ai pas été à l'oral d'espagnol. Non mais je m'en veux énormément. Encore aujourd'hui, je me dis, mais comment t'as pu ne pas aller à l'oral d'espagnol et ne pas savoir que c'était éliminatoire et rater ton bac, pauvre crétine que tu es? Vous voyez, je me traite de crétine moi-même. Et donc, les cours de théâtre m'ont déculpabilisée un peu parce que j'ai vraiment appris mes classiques et mes contemporains et j'ai eu le sentiment presque de faire un peu une fac de lettres. J'étais dans un cours de théâtre très classique. Et puis oui, écoutez, j'aime ça. Il paraît que j'étais un clown quand j'étais petite, que j'imitais Gainsbourg tout le temps et d'autres. Donc, c'était évident pour moi et je le regrette pas. J'ai beaucoup de chance de faire un métier que j'ai choisi, même s'il est difficile et certaines fois précaire. Parce que là, je suis dans les belles années, ça marche.
Ouais.
Mais quand ça marche pas, c'est compliqué. C'est très compliqué pour les acteurs.
Pour l'instant,
ça marche
toujours
désiré,
pour vous.
De ne pas être aimé, d'avoir le sentiment. Vous êtes monté, porté à un exergue, et puis après, vous n'êtes plus rien. On vous aime, on vous aime pas. Vous dépendez du désir et des autres, quoi.
C'est comme
compliqué.
Le cinéma. Vous auriez aimé faire davantage de cinéma ou c'était un choix de carrière?
Non,
de votre
j'ai pas du tout fait de choix. Moi, vous savez, j'ai aucun stratège. Non, bien sûr que j'aurais aimé. Peut-être que ça va arriver, mais c'est pas terminé. Mais ça s'est pas fait, c'est des rencontres, je sais pas, ça viendra, ça vient là, le film de Christian Carion avec Danny Boone, Lynn Renault et Alice Siza, c'est du cinéma.
Ouais,
et puis là, je viens de tourner dans le film de Sophie Baudre qui est du cinéma aussi.
Je veux dire juste un mot parce que j'ai découvert ça, je l'ignorais complètement. Vous battez auprès de l'association Imagine qui lutte contre les cancers de l'utérus qu'a emporté
votre cancers gynéco en règle générale.
Voilà, pourquoi j'en parle, c'est 2900 décès par an en France, c'est pas rien, chez les filles comme chez les garçons, c'est là où je voulais en venir. J'en parle parce que vous engagez pour sensibiliser le grand public pour la vaccination des pré-ados, y compris les garçons.
Bien sûr, j'ai fait vacciner mon fils. Les garçons sont porteurs sains, mais depuis quelques années, il y a une recrudescence de cancers liés au HPV, les papillomavirus. Et donc, pour les filles, ça peut être le cancer du col de l'utérus, dont ma mère est morte. Mais pour les garçons, c'est, pardon de dire ça, hein, mais il y a plus de 1500 cancers de l'anus garçon-fille, cancer de la gorge, du larynx, etc. Et pardon, mais de la verge aussi. Puis je sais pas pourquoi je dis pardon, d'ailleurs, parce que voilà, les problèmes des cancers gynécaux, c'est que c'est tabou et qu'en voilà. France, c'est compliqué d'en parler. Et c'est le problème, parce qu'il y a des bonnes femmes qui sont malades, qui osent même pas dire qu'elles ont un cancer de l'ovaire à leur mari. Non, mais j'ai vu des femmes comme ça. Non, non, j'ai un cancer de l'estomac. Mais donc il faut arrêter ce tabou. Il faut vacciner pour ceux. Évidemment, je ne convainc personne et je donne une information. Ces vaccins, c'est 300 millions de doses dans le monde. En Australie, il n'y a plus de cancer lié au HPV. En Angleterre, en Espagne, au Portugal, on vaccine à plus de 85% et chez nous, ben, c'est à peine 20, quoi. Donc voilà, il faut le faire parce que ça peut sauver des vies et que ces cancers-là, les signes sont ténus et qui sont très graves.
Quelle énergie, Gwendoline Amont, quel plaisir de vous recevoir ce matin. Je vous offre 100 idées à faire vous-même, comme je sais que vous avez tricoté pendant le confinement. Vous allez pouvoir continuer à tricoter. C'est pour vous, c'était notre invité tout à l'heure. Je rappelle qu'on peut vous voir demain sur France 3 à 21h. C'est la nouvelle saison, la cinquième de la série Cassandre qui démarre avec le rôle titre. Et de toute façon, il y aura aussi la saison prochaine puisque vous allez partir en tournée pour tourner Cassandre. Merci beaucoup.
Merci à vous, Philippe.
Lundi pour Culture Média, nous serons avec le patron de l'AFP, l'agence France Presse. C'est Fabrice Frise qui sort un livre consacré à la désinformation, l'emprise du faux, mais avec des recettes. Et puis la chanteuse Barbara Pravi, c'est elle qui va représenter la France à l'Eurovision le 22 mai avec son titre. Voilà, mais c'est plus
très
qu'une
mignonne,
chanteuse,
cette petite.
Parce que c'est aussi une auteure et elle a des idées, elle a de la pensée, elle a du fond. Après le flash, c'est Anne Romanoff. L'émission s'appelle Ça fait du bien. Je vous dis à lundi. Je vous dis encore salut, Gwendoline Amont.
Merci,
bonne route.
Merci beaucoup, Philippe.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.